Vous écoutez On lit pour vous.
À Parc Canada, compressions et portes closes. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 25 février 2026 dans Le Devoir. Les installations de plusieurs sites de Parc Canada resteront en partie fermées cette année en raison de restrictions budgétaires et de travaux reportés. L'agence fédérale, responsable de la protection et de la mise en valeur du patrimoine fédéral, affirme vouloir privilégier l'utilisation la plus responsable de l'argent des contribuables. En réponse aux questions du Devoir, Parc Canada indique revoir l'ouverture de plusieurs sites. Fidèle à sa tradition d'adaptation, l'agence concentre ses efforts et ses investissements là où ils auront le plus grand impact. Sur le terrain, cela signifie surtout des portes closes et des services réduits. Le cas du Fort Lennox. Au lieu historique national du Fort Lennox, à l'île aux Noix, les espaces intérieurs sont fermés depuis l'été 2024 en raison, dit-on, de la présence de moisissures. Les bâtiments avaient pourtant rouvert après des travaux de restauration réalisés entre 2017 et 2022 pour une somme d'au moins 14,9 millions de dollars. Ils sont demeurés fermés en 2025. Parc Canada n'a pas confirmé si ces bâtiments seraient accessibles à l'été 2026. Le maire de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Jacques Desmarais, affirme ne pas avoir été informé directement des intentions de l'agence Parc Canada. Il dit avoir obtenu des précisions par l'entremise de la députée Christine Normandin. Ils sont en mode de réflexion quant à l'avenir, rapporte-t-il. L'absence de communication directe avec la municipalité alimente l'incertitude. L'île demeure accessible par traversier. Selon le maire, l'absence d'accès au bâtiment réduit l'attrait du site. Il mentionne également une hausse des coûts de transport et des problèmes liés aux installations sanitaires. Un site ouvert, donc, mais vidé d'une part substantielle de son intérêt. Des centres d'interprétation fermés. À proximité d'Ormstown, le lieu historique national de la bataille de la Châteauguay n'est plus accessible qu'en extérieur. Le centre d'interprétation, qui présentait des artefacts et offrait des visites guidées, n'est plus ouvert d'emblée aux visiteurs. Le cœur pédagogique du site se trouve ainsi largement neutralisé. À Québec, le lieu historique national, Quartier Brébeuf, inauguré à la fin des années 1950 pour souligner les débuts de la présence française au confluent des rivières Saint-Charles et l'Airet, est également fermé en grande partie. La réplique de la Grande Hermine est disparue depuis plusieurs années. Une croix commémorative présente sur le site depuis le 19e siècle et dédiée à Jacques Cartier devait être restaurée. Elle ne l'a jamais été. Il ne reste sur place qu'un centre d'interprétation, modeste bâtiment, aux allures de bungalow d'après-guerre devenu une coquille vide. Sur l'île de Montréal, le lieu historique national du commerce de la fourrure à la Chine fait aussi l'objet d'une réduction de ses activités, a appris Le Devoir. La tendance dépasse donc les cas isolés. Maison de premier ministre. Même les résidences liées aux premiers ministres les plus célèbres n'échappent pas aux compressions. Dans Lanaudière, La maison natale de Wilfrid Laurier, à Saint-Lin, n'est plus accessible que sur rendez-vous seulement. Selon la mairesse Isabelle Auger, la municipalité reçoit environ 6 000 pour assurer l'animation ponctuelle du site en engageant un historien local. C'est sûr que ce n'est plus comme quand le site était accessible à tous. C'est une façon, on dirait, d'essayer encore une fois de pelleter des questions nationales dans la cour des municipalités. Mais est-ce qu'on a les moyens d'entretenir ça comme municipalité? Assiste-t-on à un glissement discret des responsabilités fédérales vers les administrations locales? À Woodside, maison d'enfance de William Lyon Mackenzie King, à Kitchener, en Ontario, l'ouverture a été limitée à environ 2 mois en 2025, entre octobre et décembre uniquement. Seuls les espaces extérieurs du site demeurent accessibles. Ailleurs, au pays. Au Manitoba, le lieu historique national de Lower Fort Garry n'offre plus ses reconstitutions historiques avec personnages en costume d'époque. Le centre d'accueil et les bâtiments sont fermés. Lower Fort Garry était un important centre d'affaires pour la colonie de la Rivière Rouge où les communautés autochtones des environs faisaient affaire. Il permettait l'approvisionnement annuel des agriculteurs et des trappeurs. La disparition des reconstitutions amoindrit l'aspect immersif qui faisait la renommée du site. Parc Canada affirme déjà que, pour la saison 2026, le lieu historique national de la forteresse de Louisbourg fonctionnera selon un modèle de niveau de service réduit. Ce site, célèbre de l'agence, se situe en Nouvelle-Écosse. Plusieurs bâtiments de site de l'agence souffrent d'un déficit d'entretien. L'état des murs du Fort Chambly, au Québec, soulève l'inquiétude. Il en va de même, a appris Le Devoir, de portions de la citadelle d'Halifax, dont les épais murs de granit tendent à s'effondrer. Par le passé, le bureau du vérificateur général du Canada avait noté des lacunes chez Parc Canada en ce qui concerne la gestion et la conservation des biens patrimoniaux. Il était reproché à l'agence de ne pas suffisamment entretenir ses bâtiments et de prioriser plutôt des besoins de fonctionnement. En réponse aux questions du Devoir, le cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, Julie Dabrusin, responsable de Parc Canada au sein du gouvernement fédéral à Ottawa, affirme être déterminé à protéger et à préserver les lieux historiques nationaux et les parcs nationaux à travers le pays dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Il précise toutefois que Parc Canada examine régulièrement ses services afin de s'assurer qu'ils sont offerts de manière efficace, qu'ils utilisent de la façon la plus responsable possible l'argent des contribuables et qu'ils garantissent aux visiteurs une expérience sûre et de grande qualité. Autrement dit, comme le reconnaît l'attaché de presse de la ministre, les contraintes budgétaires et l'état de détérioration de certains sites peuvent expliquer, du moins en partie, la fermeture de plusieurs lieux de l'agence un peu partout au Canada. C'était à Parc Canada, compressions et portes closes. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 25 février 2026 dans Le Devoir.
Le secret vert de l'industrie pétrolière. Un texte de Marc-André Sabourin, publié dans l'actualité, édition de septembre 2025. En sous-titre, les techniques de production pétrolière ouvrent la voie à l'exploitation industrielle d'une énergie propre et illimitée, la géothermie. Drill, baby, drill. Cette expression pro-pétrole pourrait bientôt devenir le slogan de la transition énergétique. Dans l'Ouest canadien, des jeunes pousses récupèrent les techniques de forage de l'industrie pétrolière afin de produire de l'électricité par la géothermie, source d'énergie verte. Le principe est simple. Creusez quelques mètres sous la terre et vous trouverez une température permettant de chauffer un immeuble en hiver. Allez quelques kilomètres plus en profondeur et vous aurez assez de chaleur pour produire de la vapeur afin de faire tourner une turbine 24 heures sur 24, explique Lisa Mueller, PDG de l'entreprise albertaine Future Era Power. Cette jeune pousse exploite depuis 2 ans la première centrale géothermique du Canada avec une puissance de 4,5 MW. D'ici la fin de 2026, ce sera au tour de l'entreprise Deep Earth Energy de mettre en service une centrale de 30 MW en Saskatchewan. À cela s'ajoutent au moins 4 autres projets en Alberta et en Colombie-Britannique, dont un ayant un potentiel de plus de 100 MW, soit un peu moins que la centrale de la Sarcelle du complexe La Grande au Québec. Et ce n'est qu'un début, car le potentiel de la géothermie est gigantesque. Selon un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie, il y a assez de chaleur dans les entrailles de la planète pour produire 4000 pétawattheures d'électricité par année avec les technologies existantes, soit 150 fois la demande mondiale. Le défi est de trouver une façon économique de l'extraire. La profondeur à laquelle se situe une température suffisante pour produire de l'énergie, soit 120 degrés centigrades, varie d'une région à une autre. Dans les secteurs volcaniques, un forage d'un kilomètre ou deux suffit souvent. Mais s'il faut creuser davantage, la facture grimpe rapidement. Dans le sud du Québec, il faudrait se rendre sous les 4 kilomètres, ce qui serait non viable vu le faible coût de notre électricité, explique Jasmin Raymond, professeur titulaire de la chaire de recherche sur le potentiel géothermique du Nord à l'Institut national de la recherche scientifique. En plus d'une température élevée, la géothermie requiert également la présence de roches perméables, telles que le calcaire, afin de laisser circuler l'eau froide qui descend et l'eau chaude qui remonte. Voilà pourquoi, historiquement, cette technologie s'est surtout développée dans certaines régions du monde, dont l'Islande. Les techniques de forage mises au point par l'industrie pétrolière au cours des 2 dernières décennies changent toutefois la donne. La fracturation hydraulique et le forage horizontal, notamment, permettent de créer des boucles souterraines où peut circuler l'eau, peu importe le type de roche, ce qui rend la géothermie économiquement viable dans davantage de régions, dont une partie des prairies et du nord canadien. La contribution de l'industrie pétrolière à la filière verte pourrait être plus grande encore. Avec Future Era, Lisa Mueller souhaite reconvertir des puits de gaz en fin de vie pour en faire de la géothermie, ce qui éliminerait la nécessité de forer et réduirait donc substantiellement le coût initial d'une centrale. L'entrepreneur espère ainsi avoir créé d'ici 10 ans des installations fournissant, citation, « des centaines de mégawatts », fin de citation, de puissance géothermique au Canada. Malgré l'ébullition du secteur, le professeur Jasmin Raymond invite les gens à la prudence. Les coûts de la géothermie demeurent élevés, beaucoup plus que pour le solaire et l'éolien. C'est bien qu'à terme, il voit cette technologie compléter les autres sources d'énergie et non les remplacer. Fin de Le secret vert de l'industrie pétrolière, un texte de Marc-André Sabourin, publié dans l'actualité, édition de septembre 2025.
Que vous devriez savoir sur la coloscopie. Un texte commandité paru le 16 février 2026 dans La Presse. Par appréhension ou par inconfort anticipé, les gens qui n'ont jamais passé de coloscopie redoutent souvent cet examen. Or, il s'agit d'un des outils médicaux les plus efficaces pour évaluer la santé du côlon, surtout chez les personnes à haut risque de cancer colorectal. Voici dans quel cas cet examen pourrait être recommandé et comment il se déroule habituellement. Coloscopie ou colonoscopie. Bien que répandu au Québec, le terme colonoscopie est un calque de l'anglais « colonoscopie ». L'Office québécois de la langue française recommande plutôt l'emploi de « coloscopie ». À quoi sert une coloscopie? Votre médecin pourrait demander une coloscopie afin d'identifier la cause de divers symptômes, dont la présence de sang dans les selles, des douleurs abdominales, une perte de poids non planifiée, ainsi que des troubles intestinaux persistants ou inexpliqués. Cet examen endoscopique permet d'observer directement l'intérieur du gros intestin avec davantage de précision que les techniques d'imagerie médicale courantes. Les personnes à haut risque de cancer colorectal peuvent également avoir recours à la coloscopie à des fins préventives. Votre médecin de famille peut évaluer votre risque personnel en fonction de votre âge, de vos antécédents familiaux, de votre état de santé et de prédispositions génétiques comme le syndrome de Lynch. Dépistage systématique dès 45 ans? L'American Cancer Society recommande de commencer le dépistage du cancer colorectal dès l'âge de 45 ans chez les personnes présentant un risque moyen, la coloscopie étant l'une des options suggérées. Pour sa part, la Société canadienne du cancer recommande plutôt aux personnes de 50 à 74 ans, n'étant pas à haut risque de cancer colorectal, d'effectuer une analyse des selles tous les 2 ans. En présence de sang, une coloscopie pourrait alors être jugée pertinente. L'organisme canadien considère que cette approche contribue à réduire de façon substantielle la mortalité liée au cancer colorectal, tout en comportant moins de risques de complications que les examens invasifs. Comment se préparer à une coloscopie? Votre médecin vous communiquera les consignes à suivre pour que votre gros intestin soit aussi propre que possible. Cette préparation permet d'obtenir des images nettes lors de l'examen. Généralement, vous devrez éviter les aliments riches en fibres pendant quelques jours et vous en tenir à une diète liquide la veille de l'examen. Vous devrez également prendre la préparation laxative prescrite, généralement l'après-midi ou le soir précédant votre rendez-vous, afin de nettoyer votre intestin de toute trace d'aliments. Il est préférable de vivre ce moment à la maison en raison des visites répétées à la salle de bain. Comment se déroule une coloscopie? Vous serez en position couchée sur le côté, les genoux repliés contre vous. Un sédatif vous sera offert pour favoriser la détente et réduire l'inconfort pendant l'examen. Votre médecin insérera par voie rectale un tube souple muni d'une caméra et d'éclairage, puis fera avancer le dispositif lentement en analysant les images diffusées sur un écran. De l'air ou du dioxyde de carbone sera soufflé afin de mieux observer les parois intestinales. Si votre médecin remarque des anomalies au cours de l'examen, il sera possible d'intervenir immédiatement. Par exemple, les échantillons de tissu pourront être prélevés pour analyse et les polypes, des excroissances pouvant évoluer avec le temps, seront retirés sur le champ. Votre médecin aura à nouveau l'occasion d'observer l'ensemble de votre gros intestin lors du retrait de l'appareil. L'examen en soi dure habituellement de 15 à 45 minutes selon le déroulement de l'intervention et l'établissement de santé. Quoi surveiller ensuite? Vous demeurerez sous surveillance auprès de l'équipe médicale pendant 30 à 60 minutes, qui s'assure ainsi que vous vous remettez bien de l'intervention. Si un sédatif est utilisé, vous devrez obligatoirement compter sur une accompagnatrice ou un accompagnateur pour le retour à la maison et pendant les 24 heures suivantes. Vous ne devriez ni conduire ni prendre de décisions importantes pendant cette période. Votre médecin communiquera avec vous pour discuter des résultats de l'examen et des prochaines étapes ou des suivis à prévoir. C'était tout ce que vous devriez savoir sur la coloscopie, un texte commandité paru le 16 février 2026 dans La Presse.
Koué, je te salue. Il n'y a pas de réconciliation possible sans récit partagé. Un texte de Christophe Préma, paru le 30 septembre 2025 dans La Conversation. Dans un contexte où les fractures mémorielles occupent une place grandissante dans nos sociétés, certaines œuvres littéraires se présentent comme des passerelles inattendues. C'est le cas de Koué, je te salue, publié en 2016, fruit d'un dialogue épistolaire entre l'écrivain franco-américain Denis Ellis Béchard et la poète Innu Natacha Canapé-Fontaine. Plus qu'un livre, c'est un dispositif d'écoute et de réconciliation qui nous invite à repenser le rôle de la littérature, non pas seulement raconter, mais créer les conditions d'une rencontre entre peuples autochtones et colonisateurs. En tant que spécialiste des études culturelles francophones et des théories postcoloniales, je m'intéresse plus précisément au cas des littératures autochtones produites en français et, notamment, celles qui abordent les fractures mémorielles. Une correspondance comme dispositif de réparation. Le livre prend la forme de 26 lettres échangées entre les deux auteurs. Denis Ellis Béchard, dont le père est gaspésien et la mère américaine, interroge sa place dans une histoire marquée par la colonisation, tandis que Natacha Canapé-Fontaine porte la mémoire et l'expérience Innu. Le format épistolaire, qui alterne entre confidences et réflexions, ouvre un espace intime pour aborder des sujets souvent évités dans l'espace public : racisme systémique, violence coloniale, pensionnat, effacement des cultures autochtones. Ce choix n'est pas anodin. L'échange de lettres crée une relation de proximité avec le lecteur, invité à devenir témoin d'un dialogue qui l'inclut implicitement. Le livre se présente comme une conversation élargie, de l'écrivain non autochtone vers l'autrice Innu, mais aussi de ses deux voix vers le lecteur québécois, canadien et plus largement francophone. Un contrat d'apprentissage et d'empathie. Dès les premières pages, le livre trace un contrat pédagogique avec son lecteur. Natacha Canapé-Fontaine introduit des mots Innu, des références culturelles, des fragments de mémoire souvent ignorés du grand public. Ces incursions ne sont pas des ornements exotiques. Elles rappellent que la langue et la culture Innu ont été marginalisées et qu'il faut leur faire place dans le récit collectif. Ce geste est profondément politique. Apprendre quelques mots, c'est déjà s'ouvrir à l'altérité. Comme le montrent mes travaux en analyse du discours, le livre fonctionne ainsi comme un apprentissage de l'empathie. Le lecteur n'est pas sommé de se sentir coupable, mais invité à partager une mémoire occultée, à reconnaître une présence trop longtemps niée. Une mémoire qui répare l'oubli. Contrairement à des discours qui se limitent à dénoncer ou à accuser, Koué, je te salue s'inscrit dans une dynamique de réparation. Le cœur du dialogue n'est pas la culpabilisation, mais la réincorporation d'un oubli. L'histoire coloniale du Québec et du Canada est marquée par des silences, des effacements, pensionnats, dépossession des territoires, assimilation forcée. Le livre rappelle ces réalités sans violence rhétorique, mais en insistant sur leur persistance dans les vies contemporaines. Cette approche non violente ne cherche pas à édulcorer le passé, mais à créer les conditions d'une mémoire partagée. La littérature devient ici un médium pour rendre visible ce qui a été effacé, tout en ménageant un espace d'écoute et de reconnaissance. une communication non violente au service du dialogue. Le ton de l'ouvrage doit beaucoup au principe de la communication non violente. On y retrouve le souci de nommer les blessures sans accuser directement, de formuler des demandes claires, de chercher une compréhension mutuelle. Cela permet de désamorcer les réflexes défensifs qui accompagnent souvent les débats sur la mémoire coloniale. En choisissant la voie de l'empathie plutôt que celle de la confrontation, les deux auteurs ouvrent une possibilité rare, celle de parler d'un passé douloureux sans que le dialogue ne se rompe. Ce style contribue à rendre le livre accessible à un public qui pourrait autrement se sentir tenu à distance par des discours trop accusateurs ou trop théoriques. Un levier civique et éducatif. L'importance de « Koué, je te salue » dépasse le champ littéraire. L'ouvrage est utilisé dans certaines écoles et universités comme support pédagogique pour aborder la réconciliation entre autochtones et non-autochtones. Il offre un modèle de dialogue qui peut inspirer d'autres contextes marqués par des fractures mémorielles ou culturelles. La fin de l'ouvrage propose même des documents pédagogiques à destination des écoles avec des programmes d'activité. Le message est clair. Il n'y a pas de réconciliation possible sans récit partagé. La littérature, par sa capacité à susciter l'émotion et à créer des personnages incarnés, a un rôle essentiel à jouer dans ce processus. Elle ne remplace pas les politiques publiques ni les réparations concrètes, mais elle prépare les esprits et les cœurs à les accueillir. Elle encourage à apprendre l'histoire dans une perspective interculturelle. De l'empathie à la responsabilité. Koué, je te salue, demeure une œuvre singulière et nécessaire. Elle illustre comment la littérature peut être au service de l'empathie, non pas en dictant une morale, mais en créant les conditions d'une écoute mutuelle. Elle propose un chemin, de l'oubli à la mémoire, de la mémoire à l'empathie, de l'empathie à la responsabilité. En revanche, cette œuvre refuse toute tentative de récupération de cette réconciliation pour donner bonne conscience aux Blancs. L'idée est bien d'amener le lecteur vers une exigence de remise en question pour pouvoir être en mesure de percevoir les récits oubliés de l'histoire. C'était « Koué, je te salue ». Il n'y a pas de réconciliation possible sans récit partagé. Un texte de Christophe Préma, paru le 30 septembre 2025 dans La Conversation.